BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. C'est donc aujourd'hui le début des négociations à Matignon où le Premier ministre reçoit les principaux leaders syndicaux et patronales. En l'occurrence, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on part vers une nouvelle phase de négociation? On va en parler dans un instant avec celle qui était en charge des retraites à la CFDT. Aujourd'hui, elle est à la Caisse des dépôts. Surtout, elle a créé un blog, un peu la retraite pour les nuls. Véronique Descargues, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Peut-être que vous nous direz un peu où est-ce qu'on va parce que c'est un peu le grand flou. Donc, vous allez essayer de nous dire ça. Après, c'est Pierre Ferracci, le patron du groupe Alpha, qui sera avec nous. On parlera un peu du climat social, des gilets jaunes, et puis des dossiers chauds dans lesquels, évidemment, le groupe Alpha est souvent impliqué. Et puis ensuite, Philippe Petit-Collin, directeur général de Safran, sera avec nous. Il a publié un bon premier semestre 2019, en mettant beaucoup d'interrogations sur le Brexit, des tensions commerciales. Mais pour l'instant, place à l'actu avec Julien Rizzo. Bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Le nouvel gouvernement italien pro-européen a porté serment aujourd'hui devant le président Sergio Mattarella. C'est une alliance inédite entre des membres issus du mouvement 5 étoiles et des membres du Parti démocrate. Luigi Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles, prend la tête du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre Giuseppe Conte doit maintenant obtenir la confiance des deux chambres du Parlement. Les négociations commerciales vont reprendre début octobre entre la Chine et les États-Unis. C'est ce qu'a indiqué le ministère chinois du Commerce. Au début du mois, Washington et Pékin avaient relevé réciproquement leurs taxes douanières. Boris Johnson capitule, il renonce à empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui le contraint à demander un nouveau report de 3 mois du Brexit en cas de no deal. Le texte de loi voté hier par la Chambre des communes est transmis dès aujourd'hui à la Chambre des Lords. S'il est adopté, la date du Brexit pourrait être reportée au 31 janvier. Le Premier ministre espère qu'après l'adoption de cette loi, les députés se montreront disposés à voter en faveur d'une motion proposant la tenue d'élections législatives anticipées, une motion qu'ils ont rejetée hier soir. Lancement du nouveau cycle de concertation sur la réforme des retraites ce matin. Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux à Matignon pendant 2 jours. Yves Verrier pour Force Ouvrière a ouvert le bal. Roland Berger pour la CFDT et Geoffroy Route-Bézieux pour le MEDEF sont reçus cet après-midi. Le Premier ministre a annoncé que la méthode et le calendrier de la réforme des retraites seront dévoilés en début de semaine prochaine. Les records de l'immobilier, série de chiffres aujourd'hui. Les taux d'intérêt d'abord. Crédit Logement CSA annonce ce midi un nouveau record à la baisse. En août, la moyenne des taux accordés toute durée confondue est descendue à 1,17% contre 1,20% en juillet. Des taux historiquement bas qui boostent les ventes. Les notaires annoncent au même moment que le million de transactions dans l'ancien a été franchi en juin. Et autre barre symbolique, celle des prix parisiens avec un mètre carré moyen officiellement au-dessus des 10 000 euros. Les juges d'instruction ordonnent un non-lieu pour Airbus et pour Air France concernant le crash du vol Rio-Paris en juin 2009. Cette décision diffère des réquisitions du parquet de Paris qui, en juillet dernier, demandait un procès pour Air France pour négligence et un non-lieu pour Airbus. La compagnie et le constructeur avaient été mis en examen en 2011 pour homicide involontaire. Et puis, mis sous pression par sa dette et le placement en sauvegarde de sa maison mère Rallye, Casino a annoncé l'arrivée à son capital de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Il possède désormais plus de 4% du groupe. Le CAC 40 à la mi-journée est en hausse de plus de 0,9% à quasiment 5600 points. Et puis l'euro-dollar est toujours stable. 1 euro s'échange, 1,10 $.
Merci Julien. Dans un instant, la question du jour, des concertations, pourquoi faire et pour déboucher. Sur quelle réforme? On voit ça tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Véronique Descargues, merci d'être avec nous. On va rappeler, pour ceux qui auraient peut-être oublié, que vous étiez ancienne vice-présidente de la CFDT, en charge notamment du dossier des retraites. Aujourd'hui, vous suivez ce dossier-là au sein de la Caisse des dépôts. Et puis surtout, vous avez donc créé votre blog répartition.home.blog. Blog, en l'occurrence, c'est un peu la retraite pour les nuls. À mon avis, ça va être assez important parce que même les grands spécialistes, ils doivent y perdre un petit peu leur latin. Ces concertations, pour vous, là, on est dans quelle phase, là, exactement? On repart de zéro, on fait une croix sur les 18 mois de négociations, sur le rapport de Levoy. Où est-ce qu'on en est?
Alors, c'est vrai qu'on attendait tous avec beaucoup d'impatience le rapport de Levoy en se disant « ça y est, maintenant on va savoir où on va ». Et après les différentes interventions de cet été, on a un petit peu le sentiment qu'un certain nombre de choses sont remises dans le débat. Au fond, c'est pas plus mal quand même que la phase de concertation soit longue, parce que, comme le dit Jean-Paul Delevoye, c'est un vrai projet de société, réformer les retraites, parce que ça impacte aussi la façon dont on travaille, la façon dont les femmes s'inscrivent dans l'activité professionnelle, la façon dont elles sont soutenues dans leur activité professionnelle par des modes de garde. Donc c'est vrai que c'est un vrai projet de société. Donc prendre le temps de la concertation, c'est pas plus mal. Néanmoins, il faut trouver le bon équilibre entre ne pas laisser les Français quand même dans une phase d'inquiétude qui va être trop longue, parce que les Français ils se posent des questions sur quel taux de remplacement je vais avoir, comment ça va se passer pour ma réversion, etc. À quel âge je vais pouvoir partir, c'est surtout ça la question majeure. Et donc là, on entre dans une phase de concertation dans laquelle à la fois la durée de la transition et un certain nombre de paramètres ne sont pas tout à fait calés, mais enfin quand même...
C'est un euphémisme.
Ce qu'on sait quand même, c'est que très probablement, il ne peut pas ne pas y avoir de réforme parce qu'il y a beaucoup d'attentes chez les Français, et puis parce que c'est une promesse présidentielle. Donc on pense qu'on ira vraiment vers un régime universel, c'est-à-dire pour tous les gens qui travaillent, pour tous les salariés, et même probablement un certain nombre de professions libérales, le même régime. Et ça, ça va plutôt dans le bon sens. D'abord parce que ça renforce la répartition quand on n'a pas à soumis aux aléas de l'évolution des effectifs de telle ou telle profession parce qu'elle disparaît, au contraire parce qu'elle se renforce. La répartition sur une assiette très large, c'est quand même mieux, c'est quand même plus sûr pour les régimes par répartition. Et puis, il y a, c'est vrai, des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, imaginez que la réversion qu'on pourrait toucher si son conjoint décède, elle dépend du statut de votre conjoint. C'est pas pareil si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes dans le privé ou si vous êtes clerc de notaire, c'est pas tout à fait normal. Donc, aller vers un régime universel, c'est plutôt bien, et ça, c'est quand même à peu près sûr qu'on y va.
Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce que ça veut dire, tiens, du reste, après, en rentrant dans le détail, mais déjà sur la philosophie, ça veut dire, quelque part, c'est la fin des régimes complémentaires ou pas ?
Ah oui, il y aura plus de régime complémentaire si l'assiette est confirmée. C'est-à-dire aujourd'hui, le haut commissaire, il dit il faut que l'assiette sur laquelle on va cotiser, ça soit 120 000 euros par an. 120 000 euros par an, ça concerne quasiment tous les Français. À 95%, 95% des gens gagnent moins que cette somme. Donc ça veut dire qu'il ne sera plus nécessaire d'avoir des régimes complémentaires. Sauf si certains estiment que le taux de remplacement qu'on leur propose est trop faible. Auquel cas, ben, il y aura ou des régimes complémentaires d'entreprise ou de branche, pourquoi pas, ou la possibilité, comme aujourd'hui, du reste, d'avoir une complémentaire individuelle. Il faut quand même souhaiter qu'on fait tout ça pour avoir un régime universel qui offrira un taux de remplacement correct aux citoyens et que donc ça ne sera pas nécessaire.
Voilà, mais pour les cadres, pour les gens qui ne touchent plus 120 000 euros, en fait, c'est quand même un énorme marché qui va s'ouvrir pour le privé.
Pas énorme, pas tellement, parce que c'est à peu près 400 000 personnes qui seront au-delà. Donc ça laisse quand même peu de place en termes de personnes concernées en dehors du régime universel.
Oui, d'accord, donc ça c'est un point quand même important. Et donc ça veut dire que ce qu'on appelle les cagnottes, certains parlent de hold-up, en fait, pour vous, il est totalement justifié dans le sens où ça va rentrer dans un régime universel. Donc toutes les réserves qui ont été constituées par les médecins, les avocats ou d'autres, c'est normal que ça rentre dans l'ensemble.
Dans un régime en répartition, les cagnottes, comme vous dites, les réserves, elles ne servent qu'à une chose, c'est prévoir les aléas de l'évolution de la démographie et éventuellement de l'économie pour pouvoir payer les retraites pour lesquelles les gens ont cotisé.
Ouais.
Donc c'est normal qu'il y ait des réserves pour être sûr qu'en cas de problème démographique ou économique, on puisse payer les retraites sur lesquelles on s'est engagé. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'en faire trop et c'est de faire une cagnotte démesurée par rapport aux engagements qu'on a pris. Donc à partir du moment où le régime universel, il reprendra à sa charge le paiement des retraites pour le passé, y compris avec les droits acquis selon les règles du passé, c'est normal que le régime universel y récupère les réserves.
Vous savez qu'on a beaucoup dit que Laurent Berger, la CFDT, je parle de votre ancienne maison, mais en fait, la petite phrase prononcée par Emmanuel Macron a été faite pour faire revenir dans le jeu donc la CFDT en l'occurrence. Ce matin, Philippe Martinez, dans une interview de chez nos confrères de Libération, dit quand Laurent Berger se réjouit du maintien du principe de répartition, il se trompe, ce qui nous est proposé, c'est un système individuel dans lequel chacun va travailler pour lui. Ce n'est pas la solidarité. Je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins et avec la réforme, si vous ne cotisez pas, vous n'aurez rien. Il n'a pas complètement tort.
On est dans un régime qu'on appelle contributif. Aujourd'hui, en retraite, on ne cotise pas selon ses moyens pour recevoir selon ses besoins. Ça, c'est en santé qu'on fait ça. En retraite, on cotise selon son revenu et on reçoit un revenu de remplacement qui est en rapport avec le revenu qu'on avait quand on était en activité. Ça existe qu'on soit dans un système en annuité ou qu'on soit dans un système en points. on change de technique en passant des points aux annuités, mais la philosophie du système ne change pas. On reste dans la répartition, on continue à cotiser sur ses salaires et on continuera à percevoir une pension qui sera en rapport avec ses salaires. Ce qui est plus lisible, d'ailleurs, du reste, ça existe déjà, hein, l'ARCO, l'AGIRC, l'IRCANTEC pour les contractuels de la fonction publique, ce sont déjà des régimes en points et ce sont des régimes en répartition, que d'ailleurs paritaires, hein, que les organisations syndicales pour l'ARCO, l'AGIRC co-gèrent avec les employeurs. Ce qui va changer, c'est que on le verra mieux, ce sera plus directement lisible que un point ça vaut tant en termes de cotisation et que ça vaudra tant en termes de retraite, alors qu'aujourd'hui le système des annuités c'est compliqué et personne n'est très bien capable de dire ce qu'il aura en retraite aujourd'hui après 40 ou 50
mais 40 quand on dit que la philosophie, on s'en souvient, c'est 1 euro cotisé de donner 1 euro à la retraite, donc là c'est là Martinez il a un peu raison, c'est-à-dire qu'on cotisera et on touchera ce qu'on a donné, quoi.
Oui, mais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la même façon. Quand vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de droit. Alors, il y a des mécanismes de solidarité. Aujourd'hui, quand vous vous arrêtez parce que vous êtes au chômage ou parce que vous avez des enfants, il y a le régime paye pour vous des droits. Eh bien, avec les points, ce sera exactement pareil. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les propositions du rapport de Levoix. Quand vous vous arrêterez parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes au chômage, parce que vous avez tel ou tel aléa de carrière, eh bien, vous aurez des attributions de points pendant ces périodes-là qui, comme aujourd'hui, mais vraiment exactement comme aujourd'hui, que vous engrangerez, que vous percevrez le jour où vous serez à la retraite.
En durée de cotisation, en fait, ça pénalise plus de se baser sur la durée de cotisation. Véronique Descas, ça pénalise plus les femmes, souvent les
chômeurs.
Alors
effectivement, ce débat, il n'est pas facile à trancher entre est-ce qu'il vaut mieux choisir un âge, 64 ans, ou une durée. Parce que c'est vrai que la durée, ça pénalise les gens qui ont travaillé tôt, qui sont souvent les salariés les moins qualifiés, et qu'on peut arriver aujourd'hui aussi, mais si on continue à raisonner en âge, on peut arriver avec des gens qui, ayant commencé jeunes, ont cotisé pendant 45 ans ou 46 pour avoir le droit à leur retraite. Mais à l'inverse, c'est vrai que pour les gens qui ont des carrières accidentées, les précaires, mais aussi les femmes qui sont d'ailleurs souvent, qui font partie souvent des gens qui ont les carrières les plus accidentées, ben finalement l'âge pivot à 64 ans, c'était un peu mieux pour elles, parce qu'aujourd'hui, il y a un quart des femmes qui sont obligées de continuer à travailler à 65 ans parce qu'elles n'ont pas des carrières assez longues pour avoir leur retraite sans décote. Donc il va falloir, je pense, que cette concertation sera importante pour ça. Il va falloir trouver un mixte d'âge et de durée qui permettent à la fois d'être équitable pour les gens qui ont commencé jeunes, mais aussi d'être équitable pour les femmes qui ont eu des carrières accidentées.
En fait, ça a quand même été fait, cette phrase, cette ouverture faite par le président, elle a quand même été faite peut-être dans ce climat social un petit peu difficile où cette rentrée était redoutée par les dirigeants politiques avec la peur que la reprise du mouvement des Gilets jaunes. Parce que là, c'est quand même une main tendue à ceux qui ont une carrière longue, comme vous l'avez souligné, même s'il s'agit surtout d'hommes.
Oui, disons, en tout cas, c'est aussi une main tendue à ceux qui sont capables de s'engager dans la réforme des retraites. Ça suscite toujours beaucoup d'inquiétudes, peut-être parfois hors de proportion avec la réalité, la réforme des retraites, parce que les gens raisonnent surtout sur le court terme, à quel âge je vais pouvoir partir. Moi, je pense que ce qui est important d'observer dans cette réforme, c'est plutôt avec quel niveau de revenus je vais pouvoir partir quand je serai en retraite. Et il y a une promesse de la réforme dont on ne parle pas suffisamment à mon goût, qui est celle de la revalorisation des droits qu'on a acquis. Aujourd'hui, quand vous êtes en activité, vous acquérez des droits, et depuis Balladur, on ne vous les revalorise que sur l'inflation. Ce qui fait que quand vous partez en retraite, le jour où vous partez en retraite, vous avez déjà perdu du niveau de vie, parce qu'on ne vous a pas beaucoup revalorisé les droits que vous avez acquis pendant votre carrière. La promesse là de la retraite, c'est qu'on vous revalorisera les droits selon l'évolution du salaire moyen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gens qui ont des carrières plates, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, tous les gens qui ont des carrières qui ont évolué moins que l'évolution moyenne des salaires pendant la même période, eh bien, ils auront un avantage par rapport à aujourd'hui. Ils auront un niveau de vie en retraite qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça...
Et cette promesse, elle est tenable ?
Cette promesse, elle est tenable. Alors, vous avez raison de dire que cette promesse, elle est tenable, à condition qu'on regarde avec objectivité la question de la durée pendant laquelle on doit travailler avant d'avoir une retraite. C'est vrai que dans la mesure où l'espérance de vie augmente, aujourd'hui, vous savez, on passe 25 ans de sa vie en moyenne en retraite. Donc on voit bien que du coup, il faut accepter, et d'ailleurs c'est inscrit dans la loi, c'est ce qu'on fait déjà, il faut accepter de partager son espérance de vie entre une partie je travaillerai un peu plus et une partie je serai un peu plus longtemps en retraite. Donc si on accepte ce principe-là, oui, on peut aussi à réussir à mieux revaloriser les droits acquis en retraite pour que les retraités aient un meilleur niveau de vie. C'est vraiment ça l'enjeu, presque le projet de société, c'est ça. Si on continue comme aujourd'hui, hein, pour ceux qui disent il faut rien changer, si on continue comme aujourd'hui, on va aboutir à avoir des retraités de plus en plus pauvres parce que ce qu'on leur donne quand ils partent en retraite, en fait, on fait semblant de leur dire, vous savez, il y a des adversaires de la réforme qui disent aujourd'hui, on a un régime à prestations définies, donc il faut qu'on garde cette prestation définie.
Oui,
avec les points, on n'aura plus ça.
Oui.
Sauf que c'est faussement défini. Quand on dit à quelqu'un au régime général, vous avez droit à 50% de votre salaire sur les 25 meilleures années, ben, si ces 25 meilleures années, on ne les a pas revalorisées, comme je vous ai dit, vous avez le droit à 50% de moins en vrai. En fait, le taux de remplacement vrai aujourd'hui, ce n'est pas 50, mais c'est 42, 43%, parce que justement, on n'a pas revalorisé vos points, on n'a pas revalorisé vos droits. Ouais. Si on vous donne des points, mais qu'on les revalorise bien, qu'on les revalorise mieux qu'aujourd'hui, ben vous aurez un meilleur taux de remplacement en retraite.
Oui, très, 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 très intéressant. Véronique Descarques, dernière question justement sur la question du point. Parce que là, la question du point, la valeur du point, ce sont les gouvernements. C'est la question que je posais hier à Yves Verrier. Ce sont les gouvernements qui vont en fait décider. Donc en fait, le régime, il dépendra entièrement. Nos retraites, elles dépendront complètement du gouvernement en place.
C'est un peu vrai aujourd'hui aussi. Hein.
Oui.
Alors, il faut que la concertation, elle planche sur cette question-là aussi. Ouais. Les propositions du rapport Delevoye aujourd'hui, en quelque sorte, les partenaires sociaux, ils ont une place, mais uniquement consultative, et à la fin, c'est le gouvernement qui décide. C'est comme ça, déjà, dans le régime général, aujourd'hui, que ce soit à fonction publique ou dans le privé, il n'y a que dans les complémentaires que les partenaires sociaux ont leur mot à dire. Mais il faut arranger ce point, et surtout, il faut bien prendre conscience que, certes, la valeur du point dépendra des décisions qui seront prises par la future gouvernance, mais aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, même en annuité, on peut très bien décider que finalement, on ne vous revalorise pas, on l'a vu l'année dernière, ou bien on vous diminue votre retraite sans trop vous le dire. La différence entre maintenant et après, c'est qu'après, ça sera plus transparent, ça sera plus difficile de tricher, de faire des trucs qu'on ne verra pas.
Ah, peut-être plus vrai. Vous savez, les Français, ils aiment bien ça quand même. Merci beaucoup, en tous les cas. C'est toujours une vision assez claire de ce qui, des enjeux, en tous les cas. Merci beaucoup, Véronique Descarques. Et donc, on vous retrouve alors sur votre blog répartition.blog. Et puis, donc, vous planchez toujours sur cette question à la Caisse des dépôts. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Pierre Ferracci, le patron du groupe Alpha, qui sera avec nous. On parlera climat, gilets jaunes, justement, rentrée sociale un peu difficile.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Pierre Ferracci, dirigeant et fondateur du groupe Alpha. Pierre Ferracci, merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce climat social, de ces gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration ce matin de Laurent Berger qui dit que, en tous les cas, ils sont toujours là. Je veux dire, le mouvement est toujours sous-jacent et les motifs de déclenchement de cette colère sociale, eux, sont toujours très présents. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Vous, groupe Alpha, on va peut-être rappeler que vous êtes très présent dans les comités d'entreprise, vous travaillez pour les comités d'entreprise, donc vous êtes très au fait de cette réalité.
Oui, sur pas mal de dossiers de restructuration, parce qu'il y en a encore, même si la conjoncture est un peu meilleure. Je suis d'accord avec Laurent Berger. Le mouvement des Gilets jaunes a été un peu calmé, pour ne pas dire apaisé, mais les origines de ce mouvement demeurent. Que ce soit sur les questions de pouvoir d'achat, ou sur ces enjeux de déclassement que ressent une partie de la population aujourd'hui, de cette coupure entre ceux qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui la subissent. Donc je crois qu'il faut être très attentif à la forme que ça peut prendre. Peut-être que ce ne seront pas des samedis à répétition comme auparavant, mais il y a une sourde colère qui gronde, et quand on engage une réforme sur les retraites, qui est un facteur de mobilisation par excellence, qui est un facteur de fédération.
On a vu que pour l'instant, non, mais on verra bien.
Oui, mais de fédération aussi, parce que tout le monde est concerné par la retraite. Ceux qui regardent le pouvoir d'achat de leur pension, les jeunes qui sont plus inquiets qu'avant sur leur avenir, et puis tous ceux qui sont au travail ou tous ceux qui sont au chômage. Donc quand je dis c'est fédérateur, tout le monde est concerné, tout le monde regarde un peu ce qui va se passer. Et donc le mouvement des Gilets jaunes, il peut reprendre sous d'autres formes. Il peut reprendre dans les entreprises, donc il faut que le gouvernement soit très attentif à ça et qu'il trouve les moyens d'apaiser durablement le mécontentement.
Donc vous dites, il a raison, ils ont raison de prendre leur temps. Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement un rapport, c'est vraiment structurant pour la société française. C'est presque un changement de modèle social.
Je crois que le président de la République a compris d'abord qu'il fallait changer la méthode et se concerter davantage, y compris avec les organisations syndicales et les partenaires sociaux, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi le reflet de cette absence de concertation. C'est pas simplement des problèmes de fond qui n'ont pas été traités. Et puis, peut-être qu'il a compris, en tout cas j'espère qu'il a compris, qu'il y a une inflexion libérale qui a été trop loin dans la politique économique du gouvernement. Et le débat sur la retraite va montrer où on en est de ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelques enjeux qui n'ont pas été traités de la même façon dans les sphères gouvernementales. Et on voit très bien ces...
Bah là, on voit très intéressant de suivre les déclarations des uns et des autres. Oui. Là, au sein même du gouvernement, il y a vraiment des lignes de fracture.
Bien sûr. Hein, oui. Mais bien sûr. Déjà, autour de l'âge pivot et puis de la durée de cotisation, on voit bien que le président de la République... Alors, c'est très, très étonnant parce que Jean-Paul Delevoye rentre au gouvernement et en même temps... Un des éléments de son rapport, l'âge pivot, est un peu remis en cause par le président de la République. Et puis derrière, vous avez la porte-parole qui dit que l'âge pivot demeure aussi une référence. Bon, on sent bien qu'il y a des débats au sein du gouvernement, notamment qu'à Matignon et à Bercy, comme sur l'assurance chômage, il y a peut-être une vision un peu plus libérale de ce qu'il faut faire. Donc, il faudra faire attention à tout ça, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi le produit d'un mécontentement qui est lié à cette politique que certains considèrent comme trop rude pour les salariés ou pour les demandeurs d'emploi.
Oui, ou de la France qui réussit. Et en soi, c'est un discours très positif, mais peut-être trop positif, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances
de réussir. Parce que certains ne s'y retrouvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'impression de réussir. Au contraire, ils ont l'impression d'être déclassés.
Oui, tout à fait. Donc, c'était Stéphane Rosès, le politologue qui est souvent ici sur BFM Business dans l'orage, qui disait, qui citait le mot d'un conseil du président en disant le président Emmanuel Macron s'est pris un TGV dans la tête, donc pour dire le choc que ça a créé chez lui. Bon, peut-être qu'il faut quand même continuer à faire des réformes. Je disais, vous êtes en charge de restructuration, General Electric, d'autres. On est quand même dans un climat économique un peu plus positif, même s'il y a des dossiers emblématique et emblématique peut-être des dossiers futurs. Je vais m'expliquer dans un instant.
Oui, il y a des dossiers qui, par exemple, quand on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, on sent très bien qu'il peut y avoir un débat sur la position du curseur entre ces enjeux écologiques et puis ces enjeux d'emploi. Nous, on est par exemple sur les problèmes de la filière diesel. On voit très bien qu'entre les aspirations à polluer moins, qui passe par la mise en cause de ce type de fonctionnement des véhicules, et puis les questions d'emploi que ça pose, il n'y a pas toujours une réflexion très approfondie. Et donc là aussi, vous pouvez retrouver des oppositions. Le mouvement des Gilets jaunes, n'oublions pas qu'il a commencé sur les 80 km/h et sur l'utilisation de la voiture.
Et sur la taxe carbone.
Bien sûr. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes ont très mal vécu le fait d'être considérés comme des pollueurs et de ne pas prendre en compte ces enjeux écologiques, alors qu'ils mettaient en avant des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de mobilité. Il y a des catégories modestes aujourd'hui qui sont obligées d'avoir deux véhicules parce que l'école est loin, parce que l'usine est loin, et ces problèmes-là n'ont pas été suffisamment anticipés.
Et je disais, mais sinon, un peu sur le climat économique vu de votre groupe, du groupe Alpha, vous disiez quand même, la situation économique, elle s'améliore, on constate.
Oui.
Si vous le constatez, c'est important.
Il y a une forme d'amélioration, et il faut se méfier, parce qu'il y a un peu moins de restructurations lourdes qui passent par des PSE, des plans sociaux, parce que les ruptures conventionnelles individuelles continuent à galoper, et que les modalités de gestion du marché du travail qui ont été fixées par les ordonnances rendent les choses un peu plus souples pour les entreprises. Mais c'est vrai que la conjoncture aujourd'hui s'améliore un petit peu. Après, il y a des différences importantes entre secteurs, il y a des secteurs qui souffrent encore énormément. Et surtout, même dans une conjoncture qui s'améliore, il y a des enjeux de productivité pour les entreprises qui mettent en cause l'emploi et les conditions de travail et la qualité du travail parfois. Donc, c'est des sujets importants.
Vous pouvez nous faire un petit bilan de la loi travail, en l'occurrence, là, Pierre Ferracci. Non, mais l'impact, parce qu'évidemment, plus de flexibilité, on voit qu'au prud'homme, donc c'est des enjeux sont très, c'est très, très, très tendus.
J'ai déjà eu l'occasion de dire, même si ça en irrite certains, que pour l'instant, dans cet objectif d'équilibre entre un peu plus de flexibilité pour les entreprises et plus de sécurité pour les salariés, qu'on voyait davantage les objectifs de flexibilité à l'œuvre que les enjeux de sécurité. Bon, je ne sais pas ce que donnera à terme la loi sur la formation professionnelle, je ne sais pas ce que donnera la réforme de l'assurance chômage, je suis de ceux qui regrettent notamment que le système de bonus-malus ait été tellement ébréché qu'il n'est plus tout à fait lisible aujourd'hui, et que du coup d'ailleurs il peut être mis en cause constitutionnellement parce qu'il peut y avoir des différences par secteur qui ne sont pas ou par entreprise qui ne sont pas acceptables. Donc je trouve que pour l'instant, ces ordonnances et cette réforme du marché du travail ont surtout donné un peu plus la main aux entreprises. Les salariés sont un peu plus inquiets parce que les modalités de licenciement aujourd'hui sont beaucoup plus souples qu'avant.
Ouais.
C'est pour ça que d'ailleurs que je ne comprends
pas. Oui, mais du coup, c'est peut-être pour ça quand même, pardon, mais c'est pour ça aussi que du coup, le taux de chômage est en train de baisser parce qu'il y a moins la crainte d'embaucher.
Non, très franchement, vous savez, les chefs d'entreprise qui ont les pieds sur terre vous disent toujours que ce qui permet d'embaucher, c'est le carnet de commandes. Et je sais bien que le MEDEF et Geoffroy Roux de Bézieux, qui est quelqu'un d'intelligent quand il fait du lobbying, a dit que ce système de malus-malus, par exemple, pouvait empêcher l'embauche. Mais ce n'est pas vrai. Il existe aux États-Unis depuis 80 ans et ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir une économie très flexible et d'un fonctionnement très libéral. Donc je crois que c'est les perspectives économiques qui peuvent aujourd'hui se dégager, mais avec des zones inquiétantes quand même. La montée en puissance de la Chine et des États-Unis, la faiblesse de l'Europe, ça ne rend pas totalement optimiste sur l'avenir de la conjoncture économique dans notre pays et dans l'Europe en général.
Je parlais des dossiers de restructuration qui, un peu du futur, lorsqu'on regarde ce qui se passe chez Casino avec l'ouverture de ce magasin, donc sans caissière en l'occurrence, que des caisses automatiques. Est-ce que vous ressentez déjà un peu l'impact de l'intelligence artificielle au sein des entreprises ou pas?
Ça commence déjà sur le terrain, mais ça commence surtout dans les discussions et ça contribue aussi à semer de l'angoisse. Parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais on a l'impression que ça va supprimer massivement des emplois.
Oui, même si ce n'est pas forcément.
Alors qu'on sait bien que le progrès technique, parfois, en crée davantage qu'il en supprime. Mais ce débat est un peu confus, il n'est pas facile, hein, parce que secteur par secteur, il n'est pas facile de définir les perspectives d'emploi et d'activité qui vont être générées par cette révolution de l'intelligence artificielle. Mais du coup, ça mériterait effectivement qu'on se pose et qu'on soit un peu plus transparent sur ces évolutions et qu'on laisse aussi le débat entre économistes ou entre sociologues s'opérer pour que l'opinion publique ne soit pas paniquée par cette évolution du progrès.
Dernière question, vous avez vu ce rapport sur la fraude sociale avec ce chiffre et donc de rapporteurs qui ont fait ce rapport des chiffres 450 milliards d'euros, enfin grosso modo ça fait de l'ordre de 10 milliards ou 14 milliards de fraude sociale avec une confusion entre fraude à la prestation, fraude à cotisation, vous en pensez quoi?
Oh, je l'ai lu rapidement, mais je pense qu'il faut se méfier de ces rapports qui tapent de façon un peu bestiale sur tout ce qui bouge. Surtout quand on engage des réformes qui sont un peu structurelles et structurantes pour l'économie et pour le modèle social de demain. Bien sûr qu'il faut combattre la fraude, et la fraude fiscale comme la fraude sociale. Mais je trouve que ces opérations un peu coup de poing, avec des faiblesses qui sont déjà soulignées par certains dans l'analyse des données de l'INSEE, ça peut être totalement contre-productif. Après, c'est des sujets sérieux qu'il faut traiter. Hein. On sait très bien que ça existe. Mais il ne faut pas en profiter pour montrer du doigt toute une population qui n'y est pour rien dans ces opérations.
Pierre Ferracci, dernière question. Vous êtes très souvent consulté par les gouvernants, qu'elles soient de gauche comme de droite, là, sur la réforme des retraites. Si vous aviez un conseil, une recommandation à faire, en l'occurrence, ce serait quoi ?
Écoutez beaucoup, beaucoup les partenaires sociaux. D'abord parce que pour moi, qui est assez critique en général sur la gestion du paritarisme, je trouve que dans la gestion des retraites complémentaires, ça s'est plutôt pas mal passé et que donc ils ont des choses à dire. Et puis, l'avenir des retraites, c'est l'avenir des actifs aujourd'hui, des chômeurs aussi d'aujourd'hui. Et donc, il faut écouter les organisations syndicales, les partenaires sociaux. Alors, c'est pas facile parce que quand on voit d'un côté Laurent Berger qui dit qu'il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas de problème d'équilibre, que l'essentiel est fait, c'est aussi les propos d'ailleurs tenus par Jean Pisani-Ferry dans une récente tribune. Et quand on voit Geoffroy Roux de Bézieux qui dit que si on ne touche pas à l'âge de départ, ben il faut toucher fortement à la durée de cotisation, on voit que les positions sont éloignées. Mais cette concertation est nécessaire et le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi ça que ça a symbolisé, l'absence de concertation avec les partenaires sociaux. J'ai l'impression que le gouvernement a entendu le message. On va voir ce que ça va donner dans les semaines qui viennent.
Oui, ils ont compris sur la méthode, changement de méthode. Merci beaucoup, Pierre Ferracci, d'avoir été avec nous. C'est sûr compliqué, mais merci beaucoup. Donc, le patron du groupe Alpha, dans un instant, c'est un grand patron. Il est Philippe Petit-Collin, le directeur général de Safran. On parlera du Brexit et on parlera des résultats du premier semestre 2019, qui sont plutôt bons. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Notre invité, Philippe Petitcolin, directeur général de Safran. Bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'être là. Vous avez plutôt sourire. Bon résultat, on verra ça. Pour l'instant, rappel des titres avec Julien Rizzo.
Le nouveau gouvernement italien pro-européen a porté serment aujourd'hui devant le président Sergio Mattarella. C'est une alliance inédite entre des membres issus du mouvement 5 étoiles et des membres du Parti démocrate. Le Premier ministre Giuseppe Conte doit maintenant obtenir la confiance des deux chambres du Parlement. Les négociations commerciales vont reprendre début octobre entre la Chine et les États-Unis. C'est ce qu'a indiqué le ministère chinois du Commerce. Au début du mois, Washington et Pékin avaient relevé réciproquement leurs taxes douanières. Boris Johnson capitule, il renonce à empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui le contraint à demander un nouveau report de 3 mois du Brexit en cas de no deal. Le texte de loi voté hier par la Chambre des communes est transmis dès aujourd'hui à la Chambre des Lords. S'il est adopté, la date du Brexit pourrait être reportée au 31 janvier. Et puis lancement du nouveau cycle de concertation sur la réforme des retraites ce matin. Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux à Matignon pendant 2 jours. Yves Verrier pour Force Ouvrière a ouvert le bal. Laurent Berger pour la CFDT et Geoffroy Roux-de-Bézieux pour le MEDEF sont reçus cet après-midi. Le Premier ministre a annoncé que la méthode et le calendrier de la réforme des retraites seront dévoilés la semaine prochaine. Le CAC 40 à la mi-journée est en hausse de près de 0,9% à 5580 points. Et puis l'euro-dollar de son côté, il est stable. 1 euro s'échange 1,10$.
Merci beaucoup Philippe Petitcolin, patron de Safran à suivre.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Philippe Petitcolin, directeur général de Safran. Philippe Petitcolin, d'abord une question d'actualité, peut-être juste avant que vous n'entriez en studio, vous avez entendu cette décision des juges d'instruction qui ont décidé un non-lieu général pour Airbus Air France, pour le crash, on s'en souvient, du vol Rio-Paris qui avait causé la mort de 228 passagers. Vous avez une réaction peut-être comme ça à chaud, vous n'étiez pas concerné directement, évidemment c'était plus Thalès peut-être, mais est-ce que indirectement vous étiez concerné ou pas?
Non, nous n'étions pas directement ou indirectement concernés. On fournit bien entendu des produits sur l'A330, mais nos produits n'étaient pas du tout à risque ou mis en cause dans cette affaire. Écoutez, je ne suis pas un juge d'instruction, c'est pas moi qui ai décidé. Je pense que les juges ont pris une sage décision basée sur des faits. Je ne peux pas commenter une décision de justice. Pardon ?
Décision dure pour les familles.
Décision peut-être dure pour les familles, mais à un moment, il faut savoir clore un dossier.
Alors, on va aborder vos objectifs 2019, que vous avez même relevé vos objectifs 2019, après un bon premier semestre. Un mot quand même, même question, je posais à Eric Rapier hein, ce matin, le patron de Dassault, sur le Brexit, parce qu'on dit que c'est toute l'industrie aéronautique qui va être vraiment très touchée, pour ne pas dire la plus touchée. Comment pour Safran, ça aura des conséquences, et surtout comment vous les gérez?
Écoutez, pour Safran, c'est déjà un pays dans lequel nous avons énormément de choses. On a 9 sites en Angleterre. On emploie plus de 4200 personnes en Angleterre. Donc pour nous, c'est absolument vital que l'on puisse continuer à fournir, à approvisionner et à rendre nos clients tout à fait satisfaits. Donc ce qu'on a fait, on a fait deux grandes choses. La première chose, c'est qu'on s'est bâti un stock supplémentaire de 2 à 3 semaines de composants pour être sûr que si au départ avec le Brexit il y avait au niveau des douanes, au niveau des chemins entre l'Angleterre et la France des choses un peu plus longues, on pourrait continuer à produire nos équipements et nos moteurs. Et puis en parallèle, on a travaillé énormément avec les organisations de certification, en particulier avec l'EASA, avec la DGAC en France, pour être sûr que tout ce que l'on fait en termes de design, en termes de production et même en termes de maintenance en Angleterre, pourrait continuer à avoir les bons certificats de validation pour pouvoir être exporté et pour pouvoir être considéré comme répondant aux normes aéronautiques.
Voilà, mais après, il y a le franchissement des douanes, il y a toutes ces lourdeurs.
C'est pour ça qu'on a mis en place des stocks
et donc,
supplémentaires.
Oui, c'est-à-dire que là, donc, il y aura a priori un Brexit hein, quand même. Donc vous aurez toujours un délai, un stock de 2 à 3 semaines.
Minimum, oui.
Maintenant, c'est la nouvelle référence, on ne sera plus...
Non, je pense qu'à terme, tout ça va rentrer dans un ordre que j'espère beaucoup plus lean et qui nous permettra de revenir à des stocks normaux que nous avions avant que le Brexit se
décide. Le coût pour vous de ce Brexit, vous l'avez mesuré, j'imagine?
En stock, c'est entre 60 et 100 millions de stocks supplémentaires.
Oui, donc c'est quand même significatif, oui. c'est pas anodin en l'occurrence. Alors, tension commerciale aussi entre la France, l'Europe. Et les États-Unis, on va quand même rappeler que vous travaillez beaucoup avec Boeing.
Énormément.
Hein, vous fournissez tous les moteurs de Boeing. On reviendra sur le 737 MAX dans un instant, mais tous les moteurs de Boeing. Est-ce que ça a un impact pour vous ou pas ou...
Pas vraiment, non.
Non, pour l'instant.
Non, nous avons des relations qui sont excellentes avec Boeing, vous venez de les citer, ou avec d'autres clients nord-américains. Et pour l'instant, nous n'avons vu absolument aucune incidence sur notre business ou même sur les choix futurs de nos clients quant à cette relation un petit peu plus compliquée qu'avant.
Oui, donc du côté de Boeing, vous n'avez déjà aucune alerte. Non, mais c'est important de souligner en l'occurrence. Aucune. Alors le 737 MAX, donc, qui a été cloué au sol.
Il est toujours.
Qui est toujours, hein, cloué au sol. Quoi, ça sera quatrième trimestre, a priori. C'est ce qu'on dit.
Depuis le 13 mars, il est cloué au sol.
Oui, depuis le 13 mars. Et vous attendez le fait que ça soit levé, cette...
Oui, oui. Mais nous espérons, et aujourd'hui, les hypothèses que nous avons retenues, en tout cas dans nos budgets et dans nos prévisions, montrent une remise en vol de l'avion durant le quatrième trimestre de l'année 2019.
Oui, c'est ça. Donc, c'est novembre.
Oui, c'est entre fin octobre, début novembre. Oui, c'est ce que nous avons prévu.
Oui. Et le fait que Boeing continue à vouloir, commercialiser hein, cet avion. Vous avez des objectifs assez élevés, on va dire, de fabrication de son moteur, hein, du moteur libre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des choix plus prudents?
Bon, c'est pas une question de choix plus prudents. Aujourd'hui, Boeing continue à produire cet avion. Il est produit aujourd'hui,
oui, bien sûr,
à raison de 42 exemplaires par mois. Nous étions montés à 52 en début d'année, ouais, 50, avant 40, la crise.
Ouais, ouais.
Et Boeing a toujours comme ambition de remonter à 47, 52, puis 57. Et les commandes sont là, le backlog est là, ouais. Le carnet de commandes est là. Boeing, ouais, est plein jusqu'à 2022-2023 en termes de commandes. Donc il n'y a pas de risque, ni à court terme, ni à moyen terme. Le seul problème aujourd'hui, c'est de fixer la date de la remise en vol de l'avion.
Oui, d'accord. Donc. Alors, si on revient sur le premier semestre pour Safran, vous avez tous les clignotants sont au vert en l'occurrence, ou presque?
Non, tous. Pour une fois, tous sont au vert. Le chiffre d'affaires a progressé de plus de 25%, mais plus de 14% en organique, si j'enlève la Zodiac et les effets de devises. Le résultat opérationnel a progressé de 35%. Et le cash flow représente 62% de notre résultat opérationnel. Donc ce sont des niveaux de marge, de chiffre d'affaires et de cash que nous n'avions jamais atteint jusqu'à aujourd'hui.
Une croissance organique de 19%, là aussi, c'est très important, en l'occurrence. Comment vous expliquez alors cette montée en puissance du groupe Safran ?
Nous sommes sur les bons programmes. Les programmes qui continuent à progresser. Nous avons des activités-services qui marchent très bien. Les avions volent beaucoup. Si vous regardez aujourd'hui le taux de remplissage des avions, il est monté de 81 à 84%. La croissance du trafic a été de 4,7% depuis le début de l'année. Donc les gens continuent à voyager, les avions volent. Donc nous avons des activités-services qui sont en plein boom. Et nous avons des activités de première monde sur des nouveaux programmes. Je peux citer l'A320neo avec nos nacelles, l'A330neo qui est un nouveau programme sur lequel nous fournissons également les nacelles. Donc nous sommes sur les bons programmes qui progressent. Et donc voilà le résultat, c'est plus de 14% en organique au niveau du chiffre d'affaires.
On reviendra sur Zodiac Aerospace dans un instant peut-être, si vous voulez bien, Philippe Petit-Collin. Juste les perspectives de développement de l'aérien, parce que vous avez suivi, comme moi, toutes les polémiques autour du fait qu'il fallait moins voler, donc l'impact que ça peut avoir sur le trafic aérien. Vous l'estimez à combien
très, très limité.
Ce changement de mentalité
Il est remarquable en Suède, mais en dehors de la Suède, on n'a pas vu, à aujourd'hui en tout cas, de changement de comportement des voyageurs par rapport au trafic aérien. Et quand on regarde quand même vers l'Asie, quand on regarde vers l'Inde, quand on regarde vers la Chine, quand on regarde vers l'Indonésie, il y a des potentiels de croissance qui sont tellement importants qu'on ne voit pas au ce jour de risque à court ou même moyen terme sur l'évolution du trafic.
Mais même à moyen terme, c'est ça qui paraît étonnant en l'occurrence.
Non.
Non ?
Non.
Bon. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas modifier, puisque j'ai interviewé la présidente d'Air France en l'occurrence,
oui.
Bon, on voit bien qu'ils sont quand même dans la volonté d'avoir des avions qui consomment moins, qui se pèsent moins lourd, donc c'est comme ça que la transcription verte, on va dire, pour Air France, donc forcément ça a un impact sur vous derrière.
Mais écoutez, nous y travaillons tous les jours. Nous avons dépensé en autofinancement plus de 400 millions l'année dernière concernant l'innovation. On a comme ambition d'être à 600 millions en 2022 et plus de 50% de cet effort d'innovation tourne autour des sujets que vous venez de mentionner, des moteurs qui consomment moins, des moteurs qui peut-être même sont mus par une partie d'électricité au lieu d'être 100% thermique, par des biofuels, par des nouvelles architectures, par des matériaux beaucoup plus légers. Donc on y travaille tous les jours. C'est notre point de référence dans l'innovation, c'est de faire en sorte que nos produits soient de plus en plus compétitifs et répondent aux besoins du marché.
Les résultats sera pour quand? On aura un avion électrique quand? Alors, on a vu au Salon du Bourget.
Vous aurez des avions électriques.
On a vu, c'était petit, quoi. Je veux dire, ouais, voilà. Loin de la 320 Néo, quoi.
Un A320 Néo, pas avant 2050. Pas avant 2050. Je pense que la prochaine génération d'avions court, moyen, courrier du type A320 Néo, qui devrait arriver en service entre 2030 et 2035, sera encore basiquement un avion propulsé par des moteurs thermiques. Il y aura peut-être un petit peu d'hybridation électrique pour supporter
ces moteurs thermiques. C'est ce que j'allais dire, on ne peut pas avoir comme pour les voitures des moteurs hybrides.
Mais un moteur 100% électrique, un moteur 100% électrique, 2050. Ça sera la génération d'après.
Ouais, et ça coûtera beaucoup plus cher, vous pensez, ou pas?
En 2050, je suis incapable de vous dire combien coûtera ni l'avion ni le moteur. Ce que l'on peut dire par rapport à ce type d'avion, c'est que si aujourd'hui on prenait les batteries telles qu'elles existent aujourd'hui avec les technologies de batterie, qu'on les améliore de 50 fois ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui, il faudrait quasiment l'équivalent d'un avion pour faire un Paris-Toulouse. Donc on serait obligé quasiment de multiplier la dimension de la 320 par deux. Donc c'est pas réalisable.
C'est pas possible. Quoi,
c'est pas réalisable.
Oui. Donc et c'est là-dessus que vous travaillez beaucoup. C'est intéressant de voir l'impact que ça va. Qui est en pointe là-dessus? Qui sont ceux? Est-ce que c'est Airbus, Boeing? Qui sont ceux, les Chinois, qui poussent le plus?
Oh, je pense que c'est plutôt Airbus et Boeing aujourd'hui, avec l'empreinte environnementale et les demandes qui nous sont faites par les différentes agences, qui sont à la pointe de ce travail. Et nous, on travaille dans nos domaines avec eux, bien entendu, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins.
Oui. Zodiac Aerospace, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est totalement intégré et qu'au contraire, vous avez réussi à relancer, on va dire, l'entreprise, le processus industriel de l'entreprise, ou c'est encore un petit peu tôt, chose que vous m'avez déjà répondu la dernière fois pour vos résultats 2018.
C'est intégré, oui. C'est maintenant totalement intégré. Est-ce qu'on est arrivé au niveau des synergies qu'on s'était fixé? Non, puisqu'on avait dit nos synergies seront réalisées à 100% en 2022. Je vous rappelle qu'on avait annoncé plus de 200 millions de synergie avec cette fusion entre Zodiac et Safran. On est en bonne voie, on travaille très bien. Nos clients, en particulier dans la partie intérieure, cabine, siège, commencent à nous refaire confiance et nous repassent des nouvelles commandes. Donc ça, c'est le point qui me fait le plus plaisir, parce qu'aujourd'hui, on tient globalement l'ensemble des engagements que l'on prend auprès de nos clients, qui sont très souvent les compagnies aériennes, que ce soit en termes de qualité de nos produits qu'en termes de délai.
Avec Airbus, vous êtes reparti sur un pied plus fort. Plus fort, enfin, je ne sais pas s'il est plus fort, mais en tous les cas, qui est moins tendu.
Tout à fait.
Oui. Il n'y a plus aucun problème dans les.
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucun problème. Je vous dis simplement que les opportunités sont là. Elles sont liées à notre performance qui s'améliore de jour en jour.
Les problèmes de livraison restent là. Je ne me souviens plus du chiffre exact, donc j'avais peur de dire une bêtise. Mais lorsque j'avais reçu Thomas Anders, il nous avait expliqué le nombre d'avions qui étaient cloués au sol à cause de Zodiac. Donc là,
oui, c'était en particulier à cause des toilettes.
Oui, à cause des toilettes. Voilà, je ne voulais pas.
Non, il n'y en a plus.
Aujourd'hui, il n'y a plus de.
Non, nous sommes à l'heure concernant les livraisons de ces produits-là.
Tout est normalisé. Ça veut dire
tout
quoi?
À fait.
Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde vos chiffres, on voit les résultats opérationnels, donc il y a bondi de 20%. Ça se fait sur le dos de qui, Philippe Petit-Collin? Ça veut dire, est-ce que ça se fait sur le dos de vos sous-traitants? On dit que vous n'êtes pas forcément un bon payeur, en l'occurrence. Est-ce que ça se fait sur quoi?
Non, ça se fait sur la performance interne. Il y a deux choses qui jouent, bien entendu. Il y a une progression de notre chiffre d'affaires qui est supérieure à ce que nous avions anticipé, ce qui fait qu'on n'augmente pas nos coûts fixes dans les mêmes proportions que l'augmentation du chiffre d'affaires. On variabilise nos coûts, et en variabilisant nos coûts, on arrive à dégager plus de marge. Et puis, il y a notre travail de tous les jours qui concerne à optimiser notre supply chain, qui concerne également nos propres ateliers où on doit travailler à améliorer nos coûts de production jour après jour. C'est la combinaison des deux, la réduction de nos coûts internes et de nos coûts externes et l'augmentation de notre chiffre d'affaires qui fait cette augmentation de rentabilité.
Et les relations que vous avez avec vos sous-traitants, parce que c'est un point important, on sait que le gouvernement est très sensible à ça, aux délais de paiement, aux conditions de paiement, et avait Agnès Pannier-Runacher, ici même, avait un peu dénoncé les grands industriels dont vous faites partie. Est-ce qu'il y a une sorte d'amélioration, enfin il faut trouver une amélioration entre les sous-traitants et les grands donneurs d'ordre, vous pensez ?
Je pense qu'il y a encore un travail important à faire, en particulier en France. Nous dépendons à plus de 60% de notre supply chain, donc de nos fournisseurs. Et dans ces fournisseurs, vous en avez la moitié qui sont français. Et ce que je regrette au niveau des fournisseurs français, c'est qu'ils n'ont pas toujours la taille pour pouvoir répondre à nos besoins. Donc c'est quelque chose que l'on voit moins en Allemagne, que l'on voit moins aux États-Unis, que l'on voit beaucoup moins en Asie, où on a affaire à des fournisseurs beaucoup plus gros. En France, nous avons énormément de petits fournisseurs, et le risque, c'est qu'ils ne puissent pas répondre dans la durée aux demandes de leurs clients.
Oui. On parle de cette usine de Lyon. C'était un enjeu politique, hein, pour le coup, très fort. Vous avez cette phrase en disant « Je ne peux pas ouvrir d'usine en France, ce n'est pas possible. » Emmanuel, tout le monde s'était mobilisé. Vous avez réussi à l'ouvrir. Vous avez réussi à faire plier les politiques sur place pour obtenir... l'enjeu est important, hein, aussi, il faut dire. Ça fait beaucoup d'emplois. Combien d'emplois ont été créés ou vont être créés?
De l'ordre de 100 à 200 emplois à terme.
Et c'est
Ce qui était important, c'était de pouvoir maintenir sur la région de Lyonnaise le socle historique de nos activités de frein carbone. C'était ça qui était le plus important.
Mais
on n'a pas fait plier les politiques, c'est pas
en
comme ça
cas,
que ça se passe.
C'est ce qu'il m'avait dit, en tous les cas. C'est que voilà, il y avait des négociations, ce qu'avait dit David Kilfeld, qui est le président de la métro.
Mais on ne fait pas plier, une négociation est une négociation.
Voilà, que vous aviez obtenu ce que vous vouliez.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, vous avez fait plier les politiques, je vous rappelle un chat, Philippe Petit-Colin. Mais en tous les cas, depuis, on voit bien, il y a un chargé de mission qui a été nommé pour regarder les relations entre les chefs d'entreprise et puis les élus locaux pour faciliter la venue l'implantation d'industrie. C'est quelque chose qui est nécessaire?
Je ne sais pas si c'est nécessaire. Dans notre cas, nous avions en effet beaucoup d'interlocuteurs et on avait du mal à avoir un message global. Et c'est ça que je regrettais à l'époque lorsque j'ai dit que il était difficile aujourd'hui d'implanter une nouvelle usine en France. On a réussi, j'ai peut-être pas été très correct dans la forme, mais sur le fond, je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. La forme était peut-être un petit peu déplacée, mais encore une fois, sur le fond, je pense qu'il y avait besoin et qu'il y a besoin de renforcer ce lien et de le rendre le plus lean possible, le plus simple possible. Et ça, c'est extrêmement important pour un industriel de savoir exactement ce qui va se passer.
En tout cas, c'était peut-être un peu cash, enfin, c'était perçu comme tel, mais ça a fait bouger les choses. Hein, et comme c'est un des gros enjeux, c'est de faire venir d'autres industriels. Est-ce que la France peut redevenir un pays industriel? Ça peut être 15% aujourd'hui, 14-15%.
Je l'espère. Pas dans tous les domaines. Il y a des domaines qui sont dans le domaine industriel à forte main-d'œuvre directe, et là je pense que ça sera difficile de par l'ensemble des coûts qui sont aujourd'hui présents en France. Par contre, dans des domaines de haute technologie, comme par exemple cette usine de frein carbone, où il y a énormément de machines, énormément d'automatisation, énormément de matière grise, donc on a besoin d'ingénieurs, de cadres et d'experts, là je pense qu'il y a un véritable avenir pour la France dans le domaine industriel.
Ouais. Un mot peut-être sur le spatial et Arianespace en l'occurrence, dont vous êtes un des actionnaires, hein, aux côtés bien sûr d'Airbus. Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été signés notamment sur Ariane 6? Est-ce que vous avez eu des engagements de l'ESA et au niveau européen?
Nous avons déjà des engagements, mais je vous rappelle que... Nous avons déjà des engagements, oui, des lancements prévus sur Ariane 6. Mais je vous rappelle que tous les trois ans, il y a une conférence interministérielle au niveau européen qui se tient au mois de novembre de cette année et qui définira donc le plan, en particulier pour tout ce qui tourne l'institutionnel, les lancements institutionnels et les aides au niveau de la R&D pour le secteur spatial qui concerne à la fois les satellites et à la fois les lanceurs.
Oui, bien sûr. C'est la seule chose, c'est qu'on le voit. Même, je posais encore la question ce matin à Éric Trappier, donc le patron de Dassault. Lui, c'est sur le futur contrat de défense aérienne, le SCAF. Il dit, bon, moi, je veux bien, on va le faire, bien sûr, mais on attend les commandes. Est-ce qu'il n'y a pas toujours deux discours entre il faut des grands projets et puis quand il s'agit de signer et de réaliser, à ce moment-là, il y a quand même des grands absents.
Les grands projets sont complexes, en particulier lorsqu'ils sont multi-étatiques. Lorsque vous négociez directement ou discutez directement avec la DGA en France, avec les directions générales de l'armement, on arrive à aller relativement vite. Par contre, dès lors qu'on met plusieurs gouvernements ensemble, plusieurs sensibilités dans la même pièce, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est très complexe. On a besoin de ces commandes pour pouvoir avancer. Et nous sommes directement partenaire sur le SCAF, en particulier au niveau de la motorisation, puisque nous avons signé une letter of intent, donc une lettre d'engagement avec MTU en Allemagne pour co-développer et coproduire à terme les moteurs de ce nouvel avion, mais ça prend du temps. Oui.
Et en même temps, est-ce que vous avez du temps sur Ariane Espace? Est-ce qu'il y a du temps lorsqu'on voit cette espèce de course qui a été lancée par les Américains? Est-ce qu'il y a encore du temps?
Je pense qu'il y a beaucoup moins de temps dans le spatial que dans le domaine militaire.
Voilà, d'accord. Donc c'est une forme d'inquiétude quand même, de ne pas trop s'apprendre.
Bien entendu que c'est toujours une forme d'inquiétude de ne pas avoir des carnets pleins et de ne pas savoir exactement le niveau de compétitivité, que l'on aura dans 3, 4 ou 5 ans.
Oui. Le 2019, donc, vous avez relevé vos objectifs. Ça se traduit en bourse, effectivement, par une forte hausse de votre cours. Le 2020, est-ce que vous allez être dans la même propulsion, pour reprendre de vos expressions?
Il est trop tôt, vraiment, pour s'exprimer sur 2020.
Trop tôt, on est en mode.
Oui, mais je vous donne un exemple. Si jamais le 737 retarde encore sa remise en service, ça va jouer énormément sur notre chiffre d'affaires. Donc il y a plein d'inconnus qui méritent d'être travaillés avec mes équipes avant de pouvoir vous donner une tendance sur 2020. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça soit négatif par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant.
Oui, donc une forme de prudence par rapport quand même.
Exactement, c'est une forme de prudence.
Mais la prudence, elle dépend de la décision du maintien au sol du 737 MAX ou pas.
Il y a des risques, oui, qui sont principalement liés à la remise en vol du 737 MAX, en particulier dans le niveau de cash que l'on peut espérer sur l'année 2020.
Oui, donc ça c'est une question importante, peut-être un point quand même, si on part par 2020, là encore, pour regarder à part Boeing, à part le 737 et donc les conséquences d'avoir sur les constructions du moteur LEAP, le reste des indicateurs devrait rester quand même dans le vert.
Le reste des indicateurs est dans le vert à aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le trafic progresse de façon tout à fait satisfaisante, même si c'est un peu moins que ce que nous avions vu en 2017 ou en 2018. Les compagnies volent, les compagnies gagnent de l'argent, même si elles en gagnent un petit peu moins. Elles ont gagné 34 milliards l'année dernière. Elles prévoient aujourd'hui de gagner 29 milliards sur un peu plus de 700 milliards de chiffre d'affaires. Donc nos clients sont en santé, dans une bonne santé économique et financière. Les gens continuent à voyager malgré ce que nous avons discuté tout à l'heure sur la Suède. Donc oui, les perspectives pour Safran sont bonnes, y compris bien entendu pour 2020. Mais pour vous donner exactement les prévisions en termes d'augmentation de chiffre d'affaires, augmentation éventuelle de marge et variation de notre cash flow, ça prend un petit peu de temps.
Oui. Deux questions. D'abord, une question sur votre succession, en l'occurrence, vous avez été prorogé jusqu'en fin décembre 2020.
Tout à fait.
Votre successeur sera choisi lors de l'AG 2020, donc au mois de mai, mai-juin. Ça vient vite, en l'occurrence. Il aura quoi comme profil?
Ah bon, on verra. Il est encore choisi. Comment voulez-vous que je donne le profil?
Non, mais est-ce qu'il y aura une rupture de génération comme on l'a vu? Bah, c'est intéressant de voir chez Airbus.
Il y aura différents choix et c'est le conseil d'administration qui décidera bien entendu quel est le meilleur candidat.
Externe, interne?
J'en sais rien à ce jour. Personnellement, moi je viens de l'interne, j'ai été un successeur interne. J'aimerais bien que ce pouvoir perdurer et continuer cette chose. Après, ça, encore une fois, c'est le conseil d'administration qui décidera. Mais personnellement, je souhaiterais que ça soit un interne.
Ouais, et il y a plusieurs candidats.
Il y aura des candidats, bien entendu. Ouais. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en aura.
Ouais. Toute dernière question, est-ce qu'on verra, alors là, d'ici la fin de votre mandat, est-ce qu'on verra enfin une restructuration, c'est ma question fétiche, autour de l'industrie de la défense, autour de Thales? On sait que 24% du capital est détenu par Dassault, par vous. Comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de toute cette industrie de défense française?
Je pense que l'industrie de défense, elle est européenne aujourd'hui, elle n'est pas française. Et toute consolidation au niveau européen, qu'elle soit franco-française ou franco-italienne ou franco-allemande, va prendre énormément de temps. Si je regarde un peu en arrière, il ne s'est pas passé grand-chose malgré des grandes discussions et des grandes déclarations. Donc ça prend beaucoup de temps pour pouvoir consolider une industrie de défense. Et personnellement, à l'horizon de fin 2020, je ne vois pas grand-chose. Je vous dirais même, je ne vois rien.
Rien venir. Radar. Vous voulez rien venir, rien dans votre radar, ça tombe bien. Merci beaucoup, Philippe Petit-Collin, directeur général de Safran, et ça encore pendant une bonne année. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr lundi, sinon dimanche BFM Politique sur BFM TV avec Muriel Pénicaud. Puis nous, on se retrouve lundi 8h15 avec Pierre Moscovici. Bonne journée.